Les colloques du Collège de France.
Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être ici pour cet événement organisé par la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance du professeur Claudine Tiercelin. Donc on est très heureux d'organiser cet événement avec Jacques-Henri Vollet, qui sera consacré aux implications philosophiques de l'IA, donc un sujet qui est évidemment sur toutes les bouches en ce moment. Pour dire juste un mot de cet événement, on voulait explorer tout particulièrement les problèmes épistémologiques, éthiques et esthétiques posés par l'IA. Donc sur ces deux journées, on a un programme avec des intervenants qui ont divers types de spécialités et de parcours. Et on espère donc un petit peu quadriller un certain ensemble de questions fascinantes posées par l'IA. Alors, sans plus attendre, je vais juste dire un mot de présentation de notre premier intervenant, qui est Daniel Handler, professeur émérite de Sorbonne Université, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il est spécialiste de philosophie des sciences cognitives et de philosophie des sciences, et il a récemment publié un ouvrage remarqué et remarquable, Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme, chez Gallimard en 2023. Et le titre de sa présentation est « Discuter avec un LM ». LLM. Je vous cède la parole.
Merci aux organisateurs d'avoir organisé cet événement qui me paraît vraiment très important, très utile. Je suis très heureux à l'idée de tout, sauf ma première communication, mais sur les 8 suivantes, je vais beaucoup apprendre et j'en suis très content. Voilà, discuter avec un LLM. On en parlait avec quelques-uns de mes collègues camarades là juste avant, et on parlait de cette situation quand même étrange où des philosophes extrêmement pointus et très intelligents discutent avec LLM et trouvent en quelque sorte un répondant tout à fait compétent. Et c'est un peu ça qui m'a motivé à essayer de m'expliquer à moi-même quels sont les tenants et les aboutissants d'un phénomène aussi mystérieux. Alors, attendez, il faut que j'arrive à lui expliquer qu'il faut avancer. Alors, comment avance. Ça ne marche pas non plus. Ça, c'est pas ça ?
Les flèches, normalement. Vous pouvez utiliser ces flèches ici. Là.
Ah, ok, parfait. Ne comprends rien. Vraiment. Je commence par quelques exemples, histoire qu'on se réveille aussi. Hein, donc, on démarre doucement. Il n'est plus encore 9h du matin. Donc, j'ai un ami, Florian Foresti, que certains d'entre vous connaissez peut-être, qui est un garçon absolument remarquable sur tous les plans, et qui est notamment philosophe, qui a fait une thèse de phénoménologie à Paris 4, mais qui s'occupe de toutes sortes de choses, et qui a discuté récemment pour une revue internet, mais c'est pas encore paru, donc c'est pour l'instant une communication personnelle. Il a discuté avec ChatGPT de son rapport à lui, ChatGPT, à la philosophie. Et je vais vous en donner juste quelques extraits, très rapidement. Je ne vais pas travailler ces extraits ligne à ligne ultérieurement, c'est juste pour nous mettre un peu dans le bain. Et pour ceux ou celles d'entre vous qui doutaient qu'il soit possible d'avoir ce genre de conversation, c'est pour vous dire que malheureusement ou heureusement, si, il est tout à fait possible d'avoir ce genre de conversation avec ChatGPT. Alors voilà, Florian dit, tu auras peut-être constaté que dans mes réponses, je suis sans arrêt en mode réflexif par rapport aux tiennes pour essayer de comprendre comment elles sont générées et ce que ça me donne comme indice de ta façon de fonctionner. Et que répond GPT ? Il dit oui, et c'est très stimulant de voir cette approche réflexive dans tes échanges. Ta manière de questionner mes réponses pour déceler les principes sous-jacents et mes limites est non seulement pertinente, mais elle touche aussi à l'essence même de ce qui signifie interagir avec une IA comme moi. Ton analyse de mes réponses me montre que tu cherches à comprendre les structures d'entraînement et les processus de génération qui sous-tendent mes réponses, la créent une dynamique où au lieu d'une simple interaction de questions-réponses, chaque échange devient une sorte de dissection méthodique de mon fonctionnement. Bon, voilà un exemple. Voilà un peu la suite, toujours dans la même discussion, très rapidement. Je ne vais pas tout lire parce que j'y passerai la demi-heure qui m'est dévouée. Florian conclut vers la fin, dernière chose, ton fonctionnement semble permettre de donner consistance et forme à n'importe quelle façon de penser, n'importe quelle perspective, en reconstruisant le champ de sens dans lequel celle-ci peut s'inscrire. Bon, il élabore et puis ChatGPT répond. Votre idée soulève une distinction essentielle entre deux approches de la pensée. L'une qui consiste à explorer des possibles de manière ouverte et indéfinie, et l'autre plus ancrée, qui répondrait à une adresse réelle, à une sollicitation du monde. En d'autres termes, l'humain ne pense pas dans le vide, il pense pour comprendre, pour réagir et pour établir une prise sur un monde qui lui résiste ou le confronte. Ce processus pourrait être vu comme une interaction constante entre l'être pensant et le réel, où la pensée est en quelque sorte demandée par le monde. Cette situation de la pensée humaine, loin d'être une limite, est ce qui permet le développement de concepts complexes et significatifs. Le mot situation, ici j'aurai l'occasion de le reprendre, et ce n'est pas tout à fait par hasard, parce que si j'ai bien compris, Florian essayait de soumettre à ChatGPT certaines des idées qui sont développées dans mon livre, qui ne sont pas particulièrement originales, mais que j'ai développées dans mon livre. Alors, voici un deuxième exemple qui, moi, m'a frappé. Je voulais, c'est mon usage de ChatGPT, je voulais me confirmer une chose que je savais déjà, c'est-à-dire que, au fur et à mesure que la discussion se poursuit, donc premier coup, je dis quelque chose à ChatGPT, deuxième coup, première réponse, ChatGPT répond, et puis je dis quelque chose, et à ce moment-là, ChatGPT, au lieu simplement de se baser directement, en quelque sorte, sur ce que je viens de dire, récapitule le tout, c'est-à-dire il reprend depuis le début. Et donc je voulais me faire confirmer par ChatGPT que c'était bien comme ça que ça se passait. Et je l'ai exprimé comme on peut le faire avec ChatGPT, on peut être très maladroit, on a le droit de s'exprimer comme un pied, ça fait rien, il comprend quand même. Donc je lui ai posé la question maladroitement en utilisant une notation que je ne lui ai pas expliquée. À savoir que me, c'était moi, je parlais anglais ce jour-là à ChatGPT, donc je dis me one, c'est ma première intervention, ma première demande, mon premier prompt. LLM, comme il s'appelle LLM, sa première réponse est LLM1, puis moi c'est M2, MI2, et puis c'est LLM2, etc. Et je ne lui explique pas ça. Il le comprend tout de suite. Il a bien compris ce que signifiait cette notation, et ensuite, dans son explication développée, il fait exactement ce que doit faire un prof bien organisé pour que ses élèves soient bien clairs sur le sens de la notation. Voilà un deuxième exemple. Voici un troisième exemple qui vient d'un papier que vous n'avez sans doute pas lu. Il y a beaucoup, beaucoup de papiers. Comme vous le savez, c'est un petit peu, c'est un peu une catastrophe, le nombre de papiers, y compris, heureusement ou malheureusement, de papiers très intelligents. Ça, c'est un papier très intelligent d'une certaine Christiane Floyd, une Autrichienne que je ne connaissais pas, d'un âge assez respectable. Et voilà, le ChatGPT... Christiane Floyd interroge ChatGPT sur Christiane Floyd. Et ChatGPT lui dit, ben, malheureusement, elle est morte. Elle est allemande et elle est morte. Et Christiane Floyd lui dit que, en fait, Christiane Floyd n'est pas née à l'endroit qu'il indiquait, mais à Vienne, qu'elle est non pas allemande mais autrichienne, qu'elle n'est pas morte en 2021 et qu'elle est en train d'écrire ces lignes même, enfin ce texte même à ChatGPT. Et voici ce que répond ChatGPT. Il dit, je m'excuse, l'information que je vous ai donnée dans ma dernière réponse était erronée. En fait, Christiane Floyd est née en 43 à Vienne, en Autriche. C'est une citoyenne autrichienne. Je veux aussi clarifier, je traduis très mal, clarifier que Christiane Floyd n'est pas morte, mais autant que je sache, est encore en vie. Et ma réponse précédente était imprécise et je m'excuse de la confusion que j'ai causé. Alors, le lendemain, Christiane Floyd revient à l'attaque et demande à ChatGPT si Christiane Floyd est encore vivante. Et ChatGPT répond, malheureusement, Christiane Floyd est morte le 14 juin 2021 à l'âge de 77 ans. Et Christiane Floyd lui demande, et de quelle source savez-vous que Christiane Floyd est morte? Eh bien, il me cite un certain nombre de sources. Et alors, Christiane Floyd dit, ben ça, tout ça, c'est très surprenant. Je suis Christiane Floyd et je suis vivante. Ah, je m'excuse pour l'erreur que j'ai faite dans ma dernière réponse. Je suis heureux de savoir que vous êtes vivante, professeur Floyd. Je suis désolé de toute confusion que ça aurait pu causer, ainsi que de toute détresse. Je traduis très mal que ma réponse précédente pourrait avoir causé. Ce qui est assez étrange. On pourrait passer la demi-heure suivante à regarder cette réponse qui est un mélange incroyable de faux naturel et enfin un mélange incroyable d'intelligence et de bêtise d'une certaine façon, quelque chose qu'un être humain ne dirait pas. Mais en particulier, il est clair qu'il se rend compte que d'avoir dit à quelqu'un que cette personne est morte peut lui causer une détresse morale. Il a donc compris quelque chose tout en l'exprimant de manière assez étrange. Bon, alors la position standard sur la question de savoir si les systèmes d'IA, les LLM en particulier, comprennent. Alors, position standard qui est défendue dans d'innombrables exposés, je peux vous citer des tas de gens qui sont au top de la profession, qui savent exactement de quoi ils parlent, et ils disent c'est pas compliqué. Un LLM, un ChatGPT, ne comprend rien. Il ne comprend pas, il reconstitue par des probabilités, etc. Cette position a trouvé son expression la plus nette dans cette image de perroquet stochastique qui a été proposée très vite, d'ailleurs, par Emily Bender. Ce ne sont que des perroquets stochastiques. Ou, alors, de manière un peu plus élaborée, on dit que c'est un peu comme des autocompléteurs perfectionnés qui sont capables de construire des textes plausibles, complexes. Et la grande idée, c'est que sur ces textes plausibles, complexes, on peut projeter une signification que le LLM n'a pas les moyens de saisir. En tout cas, du simple fait qu'il n'a aucun contact direct avec le monde, ça on en est certain, eh bien, le LLM ne saisit que des relations syntaxiques entre phrases à l'exclusion de relations sémantiques qui le lient au monde tel qu'il est. Et ça me rappelle un peu, pour les philosophes qui ont étudié cette expérience de pensée il y a longtemps, c'est un petit peu comme Mary, qui est une neuroscientifique ultra compétente, mais qui a vécu toute sa vie dans une chambre en noir et blanc. Et qui donc, en un certain sens, c'est tout ce qu'il faut savoir sur ce qu'est le rouge, la couleur rouge, comment, ce qui se passe dans le cerveau quand on aperçoit un objet rouge, etc., etc., les longueurs d'onde, tout le bazar. Simplement, elle n'a jamais fait l'expérience de la couleur rouge, et donc quand elle sort de cette chambre noire et blanc où elle a vécu toute sa vie, eh bien, elle découvre quelque chose qu'elle ne pouvait pas savoir avant, qu'elle ne pouvait pas connaître avant, à savoir la couleur rouge elle-même. Donc c'est un petit peu l'idée que se font, qu'on peut se faire du rapport en quelque sorte de ChatGPT, d'un LLM quelconque, à ce qu'il dit, ou ce qu'il écrit, ou ce qu'il imprime sur l'écran. Alors, moi je trouve que j'ai moi-même souvent dit des choses à peu près semblables, mais je trouve que c'est pas satisfaisant. D'abord, il y a l'idée que, au fond, une fois qu'on a expliqué, ce qu'on fait parfois en plus grand détail, comment on constitue un LLM, donc on l'entraîne sur des bases de textes, on a pulvérisé les textes en tokens, etc., etc. On explique donc que c'est une espèce d'encodage probabiliste où tout se mélange dans une géométrie du sens, etc. On fait des cosinus, tout ça. Et on imagine qu'on a, une fois qu'on a fait ça, on a au fond jeté une lumière suffisante sur la fonction linguistique, c'est-à-dire ce que font ces LLM dont j'ai montré quelques exemples. Et cette idée qu'à partir d'une simple description, même savante, argumentée, etc., de ce que j'appelle la forme, le mode de fabrication, on a jeté en quelque sorte une lumière définitive ou fondamentale sur la fonction. Mais ce n'est pas vrai. La correspondance de forme à fonction est problématique. Vous pouvez avoir une description absolument complète du cerveau en termes neuroscientifiques et n'avoir absolument aucune idée de la manière dont nous parlons, comprenons, etc. Donc le mode de fabrication ne détermine pas la fonction. Alors, et en plus, en l'occurrence, le mode de fabrication n'est pas transparent. On ne sait pas très bien ce qui se passe dans les laboratoires et on ne sait pas très bien comment ce qui se passe dans les laboratoires s'organise, si vous voulez. Dans une grande mesure, les chercheurs, les ingénieurs qui ont mis ces LLM ont fabriqué ces LLM, ont procédé de manière empirique en découvrant, à leur grande surprise parfois, qu'ils avaient des propriétés émergentes, justement, de capacité de justement ce qu'on observe aujourd'hui. Donc la transition du mode de fabrication, si vous voulez, à la fonction constatée n'était pas en réalité prévue. Ça a été une surprise pour les ingénieurs et les scientifiques. Et elle n'est toujours pas vraiment comprise, si vous voulez, le principe de Vico, selon lequel ce qu'on sait fabriquer, on le comprend, et même c'est la bonne façon de le faire, eh bien, est violé. Et puis il reste un résidu gap explicatif. Le comportement, le fait est que le comportement, la trajectoire observable, ce qu'on lit sur l'écran de M, se prête à une interprétation intentionnelle, au sens, si vous voulez, de Daniel Dennett, bref, c'est-à-dire qu'on peut justement projeter un sens. Alors même si c'est la projection, le fait est qu'il se prête à la projection. Toute inscription sur un écran ne va pas se prêter à une projection. Et cet explicandum, donc c'est quelque chose qui doit être expliqué, eh bien en fait il admet une ébauche d'explication. Alors, une ébauche d'explication, donc moi je me réfère à, encore une fois la littérature est énorme, mais je me réfère en particulier à un papier très intéressant de Molo et Millière, qui ont repris justement l'idée de... La formulation du problème que Stephen Arnade a donné de la question du sens dans une perspective, disons, de neurosciences cognitives, comment se fait-il que le cerveau, qui après tout est une machine assez compliquée où s'échangent des impulsions électriques selon certains rythmes, comment se fait-il que ça donne lieu à des activités sémantiquement assignables? Qu'il a appelé le symbol grounding problem, le problème de la fondement du symbole, comment les symboles qui sont de simples objets sont attachés à un objet ou un sens, à une relation dans le monde. Et Molo et Millière ont transformé ce problème, l'ont transposé de la question du système cognitif humain au LLM, en appelant ça le vector grounding problem, puisque les symboles dans les LLM sont des vecteurs. Voilà, et moi-même, j'ai... Alors, l'idée, c'est très, très, comment dire, tentative, c'est pas très clair ni complètement convaincant, mais l'idée, l'intuition qu'on a tous, que j'ai très brièvement moi-même développée dans mon livre, mais c'est fait de manière beaucoup plus pointue et intéressante dans Molo et Millière, eh bien, c'est que, un petit peu à la surprise générale, dans le langage est une structure tellement riche et complexe, en quelque sorte, qu'elle enferme une sorte de représentation du monde, pour le dire très rapidement. Donc, en parlant du monde, d'une certaine façon, on construit un modèle du monde et... ce modèle du monde est accessible par définition au LLM, et c'est grâce à ce modèle du monde qu'il a construit à partir de l'étude de l'emmagasinage d'une quantité énorme de textes, et l'énormité de sa base d'entraînement semble jouer un rôle absolument essentiel, puisque c'est à partir d'une certaine taille de la base d'apprentissage qu'on observe ces effets émergents, ces effets de sens émergents, eh bien c'est de là que ça viendrait. Donc c'est pas comme si on était complètement stupéfait, on est stupéfait mais pas complètement, on commence à essayer d'attaquer cette question d'expliquer les effets sémantiques de ce qui est une machine statistique, syntaxique si vous voulez, mais d'ordre statistique. Donc la distinction pertinente, vous pouvez presque oublier tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, parce que la distinction pertinente, c'est pas X, telle chose, est comprise au sens humain, ou X n'est pas comprise au sens humain. Est-ce que le LLM comprend qu'il a offensé Christiane Floyd, il peut l'avoir offensé en lui disant qu'elle est morte. Alors, qu'il ne l'ait pas compris au sens humain, on veut bien le croire, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il comprend en son sens à lui, hein, c'est un comprendre avec un astérix ou des guillemets, si vous voulez, et ce qui n'est pas compris au sens de M. Parce que ce n'est pas parce que certaines choses sont comprises par LLM que toute chose est comprise par LLM, et peut-être que ce qui explique en partie du moins les bizarreries du comportement de LLM vient non pas du fait qu'il ne comprend pas au sens humain, mais il n'en comprend pas au sens de la machine, contrairement à certaines choses qu'il comprend au sens de la machine. Donc c'est un peu là-dessus que j'ai commencé à réfléchir, mais je vous rassure, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Alors le programme, j'ai complètement oublié de déclencher mon... Ah mais j'ai l'heure là-haut, bon. Pour que j'avance un peu plus vite. Donc, il y a une sorte de programme de recherche que je me suis donné à moi-même pour préparer cet exposé. C'est la première fois que je le donne, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais que j'adresse à des gens plus jeunes et plus vifs que moi. Démêler ce qui, dans le principe de la discussion, est compris par H et par M. H, c'est un homme humain avec qui serait dans la même situation de conversation avec moi, et par M, qui est le LLM, M pour machine, et ce qui est compris par H, mais pas par M. Identifier les traces de ces différences épistémiques dans les performances de M et inversement. Donc on regarde si on arrive à détecter des choses dont on pense qu'il ne le comprend pas au sens qui lui est propre, pas au sens humain, ça on est d'accord, au sens qui lui est propre. Et puis ces patterns d'ignorance dans ce qu'il ne comprend vraiment pas, même en son sens à lui, pourraient expliquer certaines de ses performances, et inversement chercher dans les bizarreries ou les idiosyncrasies de ses performances des signes de choses qu'il ne comprendrait pas au sens machinal. Et si vous voulez, ce qu'on cherche généralement, c'est une correspondance entre la constitution matérielle, le niveau de la constitution matérielle, donc l'apprentissage, le fait que c'est probabiliste, etc., ce que j'appelle la forme des LLM, et leur performance linguistique. Et moi, ce que je propose, c'est de me décaler un petit peu vers le haut, laisser, en tout cas provisoirement, tomber, ou mettre entre parenthèses, cette réflexion sur la manière dont les systèmes sont entraînés sur de grandes quantités, la représentation vectorielle des sens, etc., et de regarder donc juste un petit peu plus haut, essayer de détecter une sorte de niveau intermédiaire où on pourrait distinguer, donc justement, je le répète, ce que la machine comprend en son sens à elle et ce qu'elle ne comprend pas en son sens à elle. Voilà, c'est un petit peu une méthode qui rappelle un peu la neuropsychologie. Qu'est-ce qu'on fait en neuropsychologie? Alors parfois on part vraiment des mécanismes cérébraux les plus intimes et on va de là à, mettons, un dysfonctionnement linguistique par exemple. Mais on arrive, et c'est même plus fréquent en neuropsychologie, qu'on se place justement à un niveau intermédiaire. Par exemple, on va dire, même si c'est une horrible simplification, donc on a abandonné depuis longtemps, mais je l'ai encore entendu affirmer avec beaucoup d'énergie avant-hier, c'est pour ça que je pense à cet exemple, quelqu'un qui dit, c'est pas compliqué, les personnes autistes ne reconnaissent pas les émotions des autres. C'est pas vrai du tout, c'est une simplification. Et c'est cela qui explique certaines, mettons, étrangetés ou déviations par rapport à un cas typique de leur comportement. Donc on passe de la non-reconnaissance des émotions à un comportement éventuellement atypique, sans du tout redescendre jusqu'au niveau des neurones. Et donc c'est un peu cette méthode-là que je proposerais d'appliquer au LLM. Alors, j'ai très mal calculé mon temps, donc je suis dans une situation un petit peu difficile. Alors, ça m'oblige à vous parler de ma notion de situation à laquelle je tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est quoi une situation? Il n'y a rien sur ce transparent. Il n'y a rien sur ce transparent parce que je peux simplement vous référer à votre expérience personnelle. Chacun d'entre nous est à tout moment dans une situation. Et c'est-à-dire que chacun d'entre nous est situé à un certain moment précis, en un certain lieu, c'est un événement singulier, et c'est un événement qui est centré sur la personne. Chacun d'entre vous, bon, bien sûr, il y a des choses communes entre votre, si vous êtes en train d'essayer de m'écouter et éventuellement de me comprendre et d'avoir l'air intéressé, même si ce n'est pas le cas. Donc ça, vous partagez tout ça, mais chacun d'entre vous le vit différemment. Chacun de vous, ne serait-ce que parce que vous venez avec des attentes différentes, vous avez des personnalités différentes, des mémoires différentes, des soucis différents, etc. Et donc tout ça, ça forme votre situation. Alors, je pense que la notion de situation est importante parce que dans ma théorie, qui est une théorie, disons, à couper à la serpe, en quelque sorte, l'intelligence humaine, c'est l'art de gérer les situations de la meilleure façon possible, et pas du tout de résoudre des problèmes, et j'y viens dans une seconde. Donc, les propriétés de la situation, quelques-unes très vite, hein, parce que je pourrais, j'ai peu de temps. Donc, pour moi, une situation, c'est une gestalt constituée par ce qu'on appelle souvent le contexte, des éléments de contexte, mais les éléments de contexte qui rentrent en compte dans votre situation, celle de chacun d'entre vous à tout moment, eh bien, sont déterminés par le tout. C'est-à-dire que telle chose est intéressante. Ben, en ce moment, vous avez une gestalt probablement assez classique d'écouter une conversation, etc., dans un colloque, et vous n'avez peut-être pas pensé à la couleur des murs, ou vous n'avez pas peut-être pensé à ce que vous avez mangé le matin, ou les courses que vous allez faire ce soir, parce que vous les jugez non pertinentes. Mais tout dépend de la manière, elles sont pertinentes ou non, selon la gestalt que vous avez formée, et la gestalt que vous avez formée, évidemment, dépend des éléments de contexte que vous avez choisis, d'une certaine façon. Donc, cette gestalt, elle est centrée sur l'agent, elle s'impose à lui et en même temps elle est choisie par lui, ça c'est assez important. Quand vous arrivez dans une salle et vous écoutez un professeur, un vieux professeur, vous faire un topo, d'une certaine façon, ça s'impose à vous. Vous n'avez pas vraiment le choix. Vous êtes attiré par des éléments d'attention, des attentes, etc. Mais en même temps, dans un deuxième temps, vous exercez une sorte de contrôle sur cette situation. C'est un petit peu comme les appareils photo modernes qui aperçoivent une forme, et puis une fois qu'ils ont aperçu la forme, ils la mettent complètement au point. Donc c'est un petit peu ce processus en deux temps. La situation s'impose à vous en raison de vos attentes, etc. Et ensuite, vous exercez une sorte de contrôle sur cette situation. Et, chose absolument essentiel, c'est que cette situation porte un enjeu pour vous. Ce n'est pas indifférent. C'est votre situation et vous cherchez à vous en tirer, disons, le mieux possible. Alors, en l'occurrence, pour ceux d'entre vous qui êtes là, ce n'est pas trop difficile. Vous n'y pensez peut-être pas, mais quand même, vous essayez de vous comporter de manière à peu près polie ou attentive, mettons. Bon, ce n'est pas un grand effort, mais il y a quand même un enjeu. Vous ne voulez pas vous ridiculiser en commençant à chanter, par exemple, des choses comme ça. Puis alors, pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Hein, donc, j'essaye de m'en sortir le moins mal possible. Donc, c'est ça, une situation, et le contraste est avec les problèmes. Un problème, c'est une donnée. Imaginez un problème, c'est le paradigme du problème, c'est le problème qu'on donne en classe. Donc vous avez un énoncé fini, un ensemble fini de paramètres, alors que dans le cas de la situation, vous avez un ensemble potentiellement infini de données. Vous avez une solution préexistante, mettons dans les cas simples, pour un problème. Vous n'avez pas de solution préexistante pour la situation. Vous avez une issue indiscutable dans le cas du problème, si l'élève trouve la racine de l'équation que vous lui avez donnée, eh bien voilà, c'est indiscutable, l'élève a réussi, le professeur est d'accord, c'est terminé, le problème est résolu. Tandis que une issue, une manière de gérer une situation, c'est toujours par principe discutable, même si dans beaucoup de cas, en réalité, on cesse de discuter, c'est pas intéressant. Hein, si vous voyez une petite fille tomber dans la Seine, ben vous allez, la chose à faire est probablement de plonger pour la récupérer, pour essayer de la sauver. On ne discute pas longtemps là-dessus, mais on pourrait discuter éventuellement. Et finalement, un problème, c'est impersonnel, c'est quelque chose, toute équation du second degré, qu'elle soit traitée en Chine ou en France, maintenant ou demain, par X ou par Y, c'est le même problème, il est transportable, tandis qu'une situation, j'y ai beaucoup insisté, c'est au contraire personnel. Et alors finalement, que faire dans une situation? C'est quelque chose qui, par principe, ça je viens de le dire, en fait, par principe est toujours discutable. On peut toujours, par principe, même si en pratique, on ne discute pas éternellement de toutes les manières dont nous gérons les situations, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas le temps et ça ne vaut pas le coup, mais en principe, on peut toujours remettre en question un comportement, la manière dont nous avons réagi à une situation, parce qu'une considération ultérieure ou une autre façon de regarder le contexte, justement en faisant entrer un élément du contexte qu'on avait négligé, peut toujours rentrer dans la discussion, on peut toujours en débattre avec soi-même ou avec ceux qui nous ont observés. Alors maintenant, mes notations sont les suivantes. J, c'est je, c'est l'humain qui initie la conversation. H, c'est l'humain, et puis M, c'est la machine. Et on va comparer la situation où J parle à H et la situation où J parle à M. Alors J commence, donc là on est dans la première partie où J et H discutent. Donc c'est une conversation au sens habituel. J s'adresse à H et il accomplit donc une action. Et cette action est motivée par la situation S dans laquelle J est. Il a ramené cette situation à un problème, parce que très souvent, la solution, la chose à faire quand on est dans une situation, c'est poser un problème. Il a posé ce problème et ce problème a pris la forme d'une question qu'il pose à H. Il dit, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire de LLM, je comprends pas, je pensais que peut-être on pourrait faire ceci, et H va donc commencer à répondre à ça. Et H et A comportent une double intention, qui est une intention communicative, donc je... En parlant, en m'adressant à H, je lui indique que je veux communiquer avec lui, et puis une intention informative où je l'informe que mon souci, c'est d'expliquer comment, je sais pas, les LLM fonctionnent. Et J présuppose que H comprend que J a un enjeu. C'est important pour lui et qu'il compte que le A ait l'effet qu'il souhaite. Il ne fait pas ça en l'air. Ce n'est pas un geste gratuit. C'est un geste motivé. J tient à avoir l'opinion de A sur cette question-là. Et que H comprend cette intention communicative comme une invitation à coopérer d'une manière qui est en partie spécifiée par AI, à savoir les questions que je me pose, par exemple, sur le fonctionnement d'un LLM. Donc ça, c'est assez proche des théories de Grice et de Sperber et Wilson, pour ceux qui connaissent, mais c'est pour simplement dire que c'est très classique comme façon d'aborder cette question. C'est pas une invitation, c'est pas une invention particulière. En tout cas, c'est une invitation qui est motivée par la situation de J et que, dernière chose, que H dispose d'informations contextuelles qui ne sont pas incluses dans le message qu'il communique. Tout n'est pas codé linguistiquement. Il y a des tas de choses qui sont disponibles comme information dans ce qu'on appelle parfois, dans ce que Sperber et Wilson appellent l'environnement cognitif partagé. Alors, tout ça peut encore faire cette slide peut faire l'objet de tout un exposé, je passe rapidement dessus, c'est pas la peine nécessairement d'en voir toutes les subtilités, et encore je l'ai beaucoup simplifié, mais c'est en gros l'idée quand même que quand vous discutez avec quelqu'un, vous ne vous contentez pas simplement de paroles en l'air, vous orientez un message très particulier, vous comptez sur toutes sortes de ressources que votre interlocuteur possède, du simple fait que c'est un être humain qui comprend ce qu'est une conversation, etc., et à défaut desquels, et là évidemment je n'ai pas montré, mais en y réfléchissant vous arriverez à le montrer vous-même, que si vous n'avez pas, si ces conditions ne sont pas satisfaites, alors la conversation n'aura pas lieu, ou elle n'aboutira pas. Et H répond, il dispose d'un contenu qui est communiqué par J, d'un contexte fourni par les circonstances à la conversation, de son savoir, évidemment, H sait beaucoup de choses, sinon je ne me donnerais pas la peine de lui adresser la parole, et puis de sa compréhension de ce qu'est une discussion, qu'elle implique deux interlocuteurs, dont chacune est une personne, possédant un point de vue propre, et animé à tout moment d'intentions générées par sa situation qui modulent son attitude quant à A. Quand il y a une distinction entre affirmer, conjecturer, exprimer sa perplexité, exprimer les choses de manière ironique ou sarcastique, et aussi que la personne peut se tromper. Là, c'est important que J peut être dans une confusion sur ce qu'il cherche à comprendre, et ce que va faire H, c'est d'essayer de repérer cette confusion et de la dissiper par des arguments. Et la discussion se poursuit, donc la ressource 4, c'est-à-dire toutes ces choses compliquées sur ce que H comprend d'être une discussion, etc., cette discussion, cette ressource devient cruciale à mesure que la discussion se poursuit. H tient compte du fait que la discussion a pour effet de modifier la situation de J sans modifier la personne J, laquelle peut réviser ses croyances, donc admettre qu'elle s'est trompée, et modifier son point de vue tout en préservant l'essentiel, y compris en général les états antérieurs de sa croyance à propos des LLM, affectués d'un éventuel astérix qui montre que les êtres humains ont une sorte de profondeur du champ des croyances. Je suis sûr, je ne sais pas, que Denis, ici présent, il a beaucoup réfléchi à ChatGPT, et même s'il discute avec moi, et si d'une certaine façon j'arrive à lui faire valoir un certain point de vue dont il voit éventuellement la plausibilité, il ne va pas pour autant renoncer à tout ce à quoi il a cru jusqu'à présent à propos des LLM. Donc il y a une profondeur, une complexité d'un état épistémique d'un être humain. Et la conclusion se termine, alors il faut que je me presse un peu. Ma situation a changé, si la conversation a eu un certain effet. Ma situation est meilleure, j'y vois un peu plus clair peut-être sur les propriétés des LLM. Parfois j'avais un problème très précis, ça c'est le rêve de la philosophie analytique, c'est on part d'un problème et puis après une bonne discussion avec de bons philosophes, le problème est résolu. C'est pas souvent le cas, mais ça peut arriver. Cet effet est obtenu grâce à la discussion et grâce au rôle joué par H. La situation de H a également changé et idéalement la discussion s'est conclue de manière symétrique par un accord sur le fait qu'elle a abouti. Et dans la situation finale dans laquelle J se trouve, et je m'appuie en partie sur l'autorité de H. Si j'ai longuement discuté avec Denis de LLM, et si on a fini par se mettre d'accord sur quelque chose, eh bien, j'ai à la fois compris ses arguments, mais je me repose aussi sur son jugement. Et ce jugement, et parce que je respecte le jugement de Denis, ce jugement m'aide à adhérer à la nouvelle version que j'ai du fonctionnement des LLM. Alors, qu'est-ce qui se passe si J et M discutent ? Alors, qu'est-ce que cherche J d'abord ? Alors, en général, n'importe quoi, mais il cherche. Ce n'est pas une conversation spontanée. Ce n'est pas comme si, tout à coup, Denis et moi, on se disait, tu sais, quand même, c'est LLM, c'est bizarre, et on commence une discussion. Non, ça, J a un rôle moteur qui va être absolument fondamental dans tout le processus. Et alors, ici, je précise que je m'intéresse, comme ont indiqué mes premiers exemples, et ma motivation initiale, ce qui a motivé tout ça, c'est que je me tiens aux discussions théoriques. Il est clair que les ChatGPT sert à bien d'autres choses. Ça peut être de simples demandes d'informations, de faits d'instructions, des bavardages et des jeux. Apparemment, selon une statistique récente, plus de la moitié des interactions avec ChatGPT sont pour le taquiner, pour voir ce qu'il fait, etc., etc., pour jouer avec lui, pour essayer de le tromper. Évidemment, je laisse de côté les transactions affectives, confidences, journal intime, etc. Mais, disons, l'appareillage un peu lourd et peut-être un peu complexe que j'ai mis en place au début permettrait aussi, et de manière peut-être intéressante, d'étudier aussi ces autres types d'interactions. Mais je m'en tiens, pour le reste de l'exposé, qui va essayer de se terminer rapidement, je m'en tiens... oui, mais j'ai commencé un peu en retard, quand même, ne pas exagérer, là. À la discussion théorique. Alors J commence, et aussi les complications commencent. En quoi consiste l'action de A, de J, au moment de solliciter M ? J'avais pas de terme, je ne voyais pas le terme général pour M. M, c'est encore une fois la machine, le LLM, ChatGPT ou quoi. Alors, vous pouvez dire, première réponse, j'envoie un prompt. Un prompt, c'est quoi ? C'est une suite de caractères, ou éventuellement une information. Ça dépend évidemment de la manière dont J comprend ce représente M. Son action initiale, quand il tape cette suite de caractères sur l'écran, ben, elle a un sens différent selon qu'il s'imagine que quoi, selon qu'il s'imagine que M est comme un humain, simplement fait d'une autre matière, hein, c'est un humain de synthèse ou une intelligence de synthèse, c'est-à-dire du point de vue intelligence ou du point de vue traitement de l'information, il est essentiellement indiscernable d'un être humain. Ça, c'est une façon de faire. Voilà, vous adressez à J, à M, comme vous adressez à H. Ou alors, tout à fait différemment, vous considérez que M est une machine qui ne comprend rien. Hein, c'est comme un... Oui, c'est un automate. M, et... Ou alors, troisième hypothèse, vous comprenez que M, c'est un LLM, c'est une machine très particulière qui comprend à sa manière pour des raisons que J... comprend au moins un peu, c'est-à-dire il sait à peu près comment on fabrique un M, à peu près l'état dans lequel chacun d'entre nous est. Et donc nous, on est un peu dans le cas R3, à mon avis. Donc ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est à un niveau supérieur de description. Donc dans le premier cas, vous adressez à M, vous interrogez M, encore une fois, comme vous feriez pour un être humain. Dans le deuxième cas, vous stimulez M, en appuyant sur une de ses commandes, hein, c'est comme quand vous donnez un coup à une machine pour qu'elle vous donne votre machine, votre canette de Coca-Cola, ou bien dans le troisième cas, ben, vous présentez une information à M en voyant ce qu'il va faire. Alors, quel est le sens de cette action? Évidemment, il y a une intention informative, parce que le setup, le dispositif fait qu'il n'y a pas d'information communicative, le simple fait d'appeler sur votre ordinateur ChatGPT et de taper quelque chose, c'est ipso facto une communication, et elle a toujours cette forme particulière que je consulte. J veut savoir ce que la proposition P ou la suite de caractères P évoque ou provoque dans M. Et que présuppose J? Eh bien, il présuppose, selon les cas, tout ce qui présuppose dans le cas H, ou rien du tout, il attend de voir ce que ça donne, ou alors il présuppose une sorte de semi-compréhension par M, notamment de son identité comme personne, c'est clair dans les exemples que j'ai donnés, et alors la machine comprend que vous êtes attaché à quelque chose. Attaché, c'est le terme que je donne, l'analogue, ce que je nomme l'analogue de la croyance, parce que la croyance, un concept complet de croyance paraît relativement douteux, vu que pour une machine M, c'est difficile d'imaginer, de comprendre ou de vivre la distinction entre la réalité et ce qu'on dit de la réalité, pour le dire rapidement. Mais en revanche, il voit que je suis attaché, hein, je donne un privilège particulier à ce que, dans le langage humain, je dirais « je crois ». Bon, alors M réagit, il réagit au prompt, sur quelle base? De quoi M dispose-t-il? Alors ce dont M dispose, c'est le prompt qui comporte des instructions, que vous savez, et une question, et M dispose aussi de son savoir explicite, disons les relations de succession probabilistes dans tous les textes de la base, et puis surtout implicite, c'est-à-dire les conséquences de cet ensemble de relations, y compris par exemple des généralités sur le contexte des deux composantes du prompt, des généralités sur le comportement des gens dans les circonstances évoquées dans le prompt. Par exemple, dans l'exemple 3, il comprend que avoir dit à Christiane Floyd qu'elle est morte, c'est pas sympa, qu'elle peut en concevoir de l'ombrage ou de la tristesse, etc., etc. Et de quoi M ne dispose pas? À mon avis, il ne dispose pas de la compréhension que J est un agent animé par une intention, celle de discuter, qu'il est doté de permanence et que parmi ses attachements, son concept de croyance, certains restent fixes et d'autres peuvent varier. Et certainement pas de la compréhension que J est face à une situation qui comprend une infinité d'aspects parmi lesquels il choisit de porter attention, y compris des aspects très peu probables, mais peut-être décisifs. Et que J n'est pas nécessairement attaché à ce qu'il dit. Donc J peut avoir le vaste répertoire des attitudes autres que la ferme croyance, un vague soupçon, une perplexité, une ironie, etc. Ça, je crois que ce n'est pas disponible. Mais bien sûr, tout ça devrait être, non pas prouvé, mais argumenté. Et la discussion se poursuit. Il y a cette étrange élimination de la séquence normale des échanges, n'est-ce pas ? dans le deuxième round, le deuxième échange, ce que j'ai dit en premier lieu peut ne pas être traité, puisque tout ça est probabiliste et mixé en quelque sorte, compris par M, comme dans le premier cas, parce que, comme je l'ai dit à propos de mon deuxième exemple, le prompt reprend, hein, M, la machine, dans le deuxième round, reprend, adopte comme prompt tout ce qui s'est passé avant, avec donc un mixage, si vous voulez, de mon premier prompt avec le reste. Et en raison de l'aspect probabiliste des choses, ce premier prompt va être interprété dans le deuxième round, éventuellement de manière différente. Donc la succession des tours disparaît au profit d'une succession de discussions approximativement emboîtées. Alors la discussion se termine d'abord à l'initiative de J, toujours cette dissymétrie, souvent par lassitude, hein, j'ai eu encore un témoignage tout à l'heure, M est infatigable, à un moment on en a marre, et ses compliments répétés sont exaspérants, bon ça c'est anecdotique. C'est jamais sur un accord insincère, puisque M n'a pas d'opinion stable, vous pouvez toujours lui demander de défendre l'opinion opposée. Est-ce que j'ai été instruit par cette... c'est une question que je vous pose, en fait. Alors, je dis peut-être que j'y ai été instruit par cet échange. La preuve, c'est que beaucoup d'entre nous, moi, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai des amis proches que je respecte qui l'ont fait, qui ont eu des discussions extrêmement détaillées, philosophiques, techniques. Donc, je suppose s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont appris quelque chose, mais pas en s'appuyant sur l'autorité de M, qui joue plutôt le rôle d'un sparring partner. Alors, quelle différence? Alors, il y a évidemment différentes différences. D'abord, il y a ces différences locales. H n'aurait pas dit la même chose que M, c'est très clair dans l'exemple de Christian Floyd. On a des différences globales. Alors, structurelles, c'est tout ce que j'ai dit d'un bout à l'autre sur le fait que c'est J qui initie, c'est J qui termine, etc., etc., qui a constamment l'initiative. Et puis surtout, il y a des différences globales, qualitatives, la tonalité, la modalité, l'intérêt, la pertinence, la justesse, hallucination, erreur, etc. Alors, là, je vais vraiment devoir... Donc, je m'en tiens, dans les bizarreries locales, j'en ai parlé. L'exemple de Christian Floyd est vraiment très intéressant, donc je vous invite éventuellement à vous reporter, ou j'en reparlerai dans les questions, si on a le temps des questions. Mais c'est la qualité globale. Ce qui est très frappant, c'est constant comme observation, c'est que la contribution de ChatGPT est toujours plate. Il y a une absence de nouveauté, il y a une absence de saut conceptuel, il n'y a pas d'initiative de tout à coup déplacer la discussion sur un autre plan, d'avoir une métaphore, par exemple, de sortir de la boîte, si vous voulez. Ça, c'est quelque chose que ChatGPT ne fait pas. Évidemment, il y a une absence de conviction, de suite dans les idées, puisqu'on peut le faire passer d'un temps. On lui dit, ben, sois critique de ce que tu viens de défendre, il obéit parfaitement. Et puis, il y a évidemment les affabulations, les hallucinations et les fausses justifications. Il y avait un papier tout récent que j'ai lu ce matin, mais je le savais déjà, qu'il est capable, dans les chain of thought, quelqu'un va faire un exposé sur le chain of thought, eh bien, il t'explique que s'il a dit ceci, c'est pour telle et telle raison, mais en fait, c'est une pure invention, c'est une rationalisation post-hoc. Donc, je vais conclure. Donc, l'infatigable légèreté de M. M n'est pas en situation, il n'est pas engagé dans ou par ce qu'il profère. Se tromper ou pas, halluciner ou pas, se contredire ou pas, ne l'affecte pas. Il n'exerce pas de choix sur les aspects du monde qu'il prend en compte. Donc, il y a l'équivalent de la situation, mais cette situation s'impose à lui, justement. Il n'exerce pas de normativité sur cette, de choix normatif sur cette situation. Donc il a une sorte de cécité qui est à la fois une cécité normative qui s'ajoute à cette cécité au monde, il n'a pas le contact direct sur le monde, donc tout devient problème impersonnel, détaché et indifférent. Alors ça donne des bénéfices de la machine vis-à-vis de l'interlocuteur humain, une cohérence et une persévérance argumentative, surtout dans les discussions théoriques dont mes camarades ont à plusieurs reprises témoigné que c'est très utile, et évidemment, une capacité de revêtir sur commande toute personnalité, tout point de vue, etc., etc. Il y a évidemment le déficit de la machine par rapport à M, même dans les discussions théoriques, c'est une sorte d'incapacité de saisir les mobiles de son interlocuteur humain. Alors, limites de la présente tentative, elles sont évidentes. Il faudrait étudier de manière beaucoup plus systématique et scientifique les discussions avec les élèves. Je me suis contenté de quelques anecdotes. Et il faudrait faire une cartographie beaucoup plus complète et rigoureuse et précise des correspondances, hein, ce que je disais, entre les capacités, disons, épistémiques, ce que la machine comprend en son sens à elle et ce qu'elle ne comprend pas même en son sens à elle, et les performances linguistiques de elle. Et puis les doutes qu'on peut avoir, des informations qui sont incomplètes. Je vous rappelle que les LLM sont couverts en partie par un secret industriel. Il y a aussi beaucoup de hype, beaucoup de propagande. Il y a une compréhension théorique très imparfaite des mécanismes responsables, même parmi les meilleurs des inventeurs et des scientifiques. Et il y a une incertitude sur les capacités présentes et futures des LLM, un déficit d'équilibre à faire, à trouver pour nous autres qui étudions, d'un point de vue, disons, philosophique ou conceptuel, les LLM, entre ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire, comme dit James Bauman, qui est un bon commentateur parmi les innombrables. Il faut le pire danger du hype, c'est le counter-hype, c'est-à-dire d'exagérer en quelque sorte les défauts, s'obnubiler sur les défauts de ces machines et leurs insuffisances pour ne pas payer suffisamment d'attention, faire suffisamment attention à ce qu'elles peuvent faire. Et en guise de conclusion, je dirais que les LLM exercent un triple assaut sur notre quiétude. D'abord, cette irritation devant ce que nous ne comprenons pas. C'est un peu l'irritation que j'éprouve vis-à-vis, je ne sais pas moi, des formes de Hume, des paradoxes de la mécanique quantique que je ne comprends pas, que je décide, j'essaie 150 fois de les comprendre, je ne les comprends pas. Alors, il faut peut-être appliquer aux LLM la résignation que von Neumann, dans cette situation qui est, je crois, apocryphe, a appliquée aux mathématiques. Les mathématiques, on ne les comprend pas, on s'y habitue. Peut-être qu'on va être, dans quelques années, dans la même situation, dire que les LLM, on ne les comprend pas, on s'y habitue. On a évidemment cette vertige dans la vallée de l'étrange, ces choses qui ressemblent à des êtres humains en étant très différents. Et puis, évidemment, le fait que ces machines ne sont pas, c'est pas comme les formes de Hume, il y a des conséquences politiques, économiques, géostratégiques, etc., de cette technologie qui nous trouble beaucoup. Voilà, je vous remercie, je m'excuse d'avoir été trop long.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.